Bonsoir, bonjour, Odysseas, comme vous voudrez, vous êtes bien à l'écoute de l'émission. Et si demain, sur Esprit Occitanie, et si demain la sagesse l'emportait sur le diktat de la finance, ce serait pas mal du tout. Je remercie Alan Delahaye et Valentin Marguerite qui sont là pour la réalisation technique. Et sans réalisation technique, pas d'émission au micro Christian Moreto, mais pas que. L'indicatif est signé de Damien Moreto. Je salue au passage nos amis de l'American Cosmographe, mais aussi du Théâtre du Pavé et de TV Sol Actualité sur Internet. Et je reçois avec un grand plaisir Benoît Séverac. Bonsoir.
Et bonsoir à tous.
Bienvenue dans l'émission Et si demain. Donc tu as publié il n'y a pas si longtemps que cela avec un autre auteur, Hervé Jubert. Alors je ne vais peut-être pas prononcer le titre, je vais te le laisser prononcer parce que je ne sais pas si je prononcerai bien.
Alors prononciation fidèle, c'est Ouachache. Mais en français, on dit Ouazazé, tout simplement.
Ouazazé, d'accord. C'est plus facile à dire, effectivement. Et c'est paru donc aux éditions Le Passage Polar. Alors là, c'est une aventure un peu particulière. Déjà, l'écriture à quatre mains, c'est pas forcément évident. Enfin, vous êtes deux écrivains de polar, mais c'est pas forcément le même style au départ.
On n'a pas du tout les mêmes univers. Hervé vient du fantastique et plutôt du steampunk, ce qu'on appelle le steampunk, c'est-à-dire le fantastique polar avec un ancrage dans le 19e siècle. Et plutôt pour les ados, et moi je suis vraiment dans le roman noir, ado aussi, mais je fais beaucoup d'adultes. Donc on avait des univers entre réalisme et fantastique qui ne se croisaient pas. Et à la croisée de ça, il y avait peut-être le réalisme d'une enquête de gendarmerie aujourd'hui autour de Montauban, mais qui met en scène un Indien d'Oklahoma, un Indien Osage, donc c'est ce qu'on appelle Osage en français, mais Ouazazé ou Ouachache, qui ont, alors on y reviendra peut-être, mais qui ont un passé commun avec nous en Occitanie, mais pour qui le surnaturel est une chose naturelle. C'est-à-dire que chez les Indiens, ce n'est pas très, très surprenant de trouver de la cosmologie, des choses comme ça. Donc c'était ce que j'acceptais de faire, c'était le compromis que j'ai accepté de faire pour écrire avec Hervé. Mais parce que voilà, on est allé l'un vers l'autre un petit peu, et à mi-chemin, il y avait les Indiens d'Amérique du Nord.
Oui, parce que vous êtes parti quand même au départ d'un fait véridique. Ça se passe autour de Montauban, effectivement, avec un Indien Osage de l'Oklahoma. Mais après, il y a tout l'imaginaire qui est monté forcément en puissance. Mais au départ, il y a bien une association du côté de Montauban qui s'est créée. Il y a des ponts qui se sont créés, des passerelles entre le monde occidental et le monde des Indiens.
Oui, alors ce pont, les premières pierres ont été déposées en 1829, en fait entre 1827 et 1829, quand, je vais faire ça de façon très courte, mais Philippe Brassard a écrit, qui était un journaliste de la région, a écrit un très bon livre sur cette question-là, très documenté, qui s'appelle « Voyage au pays des Indiens, non, au pays des yeux pâles ». Et ça remonte au 19e, quand des Indiens Osages, six Indiens Osages, sont venus se perdre en Europe, notamment en France. Ils venaient d'Oklahoma, ils avaient été vendus par Napoléon dans le package de la Louisiane aux Américains. Bien sûr, traités comme des Indiens par les Américains, c'est-à-dire assez mal. Et alors qu'ils avaient eu des relations très très bonnes, très cordiales avec les Français, ils se retrouvaient traités comme des esclaves, quoi. Et donc ils avaient l'intention de venir en Europe. Alors, t'imagines le voyage à l'époque dans ce sens-là. Des gens qui n'avaient pas un rond, qui ne parlaient pas français et qui avaient comme idée de rencontrer le roi de France. Parce qu'on était en 1827, il y avait eu la Restauration, on n'était pas sous Louis-Philippe, mais Charles X, là. Et ils l'ont rencontré, ils ont exposé leur grief, et se plaignant d'être maltraités par les Américains. Mais bon, rapidement, le gars qui les a fait venir, qui était un escroc, s'est fait arrêter parce qu'il avait des créanciers en France depuis un moment. Et ils se sont retrouvés seuls avec leurs traducteurs sur les routes de France. Au début, la coqueluche, très très bien reçue par toutes les cours et tous les notables locaux. Et puis petit à petit, ils sont tombés complètement dans l'oubli. Et ils se sont retrouvés miséreux en Suisse allemande, je crois, complètement affamés, en plein hiver. Et le gars les a abandonnés là. Il a piqué l'argent de la caisse. Il est montré un petit peu comme des bêtes de foire. Et il les a abandonnés là. Et les six se sont séparés. Il y en a trois qui sont partis à Paris en se disant « on va se faire aider par la Fayette, qui les a aidés, effectivement. Il leur a payé le voyage retour. Et parce que Lafayette, évidemment, avait des acquaintances avec les Indiens d'Amérique. Et puis, et les trois autres ont dit, ben, nous, on va descendre à Montauban, parce qu'à Montauban, il y a un évêque dont on sait qu'il avait fait de l'évangélisation en territoire Oklahoma auparavant. Et il les a, effectivement, ils ont débarqué à Montauban, par Toulouse, affamés, en plein hiver, à pied. Ils n'avaient plus rien à bouffer depuis un bon moment. Ils ne parlaient pas un mot de français, ils se sont retrouvés là, ils ont été accueillis à bras ouverts. Effectivement, l'évêque de Montauban et l'évêque de Toulouse ont fait appel à la générosité de leurs ouailles et ils leur ont payé, ils les ont hébergés déjà, nourris, et ils leur ont payé le voyage retour. Donc cette tradition-là, enfin ce souvenir-là a été maintenu par la tradition orale des Indiens. Et dans les années 80, des occitanistes de Montauban ont dit, voilà, on voulait réactiver cette amitié-là et l'ont fait. Et depuis, c'est l'association Okeok, ou plus exactement Oklahoma Utsitagno, et qui entretient cette amitié-là. Voilà, il y a plein d'autres trucs à dire encore là-dessus, mais peut-être je te laisse poser des questions parce que c'est passionnant, c'est une histoire qu'on connaît pas trop en fait dans notre région.
Ouais. Je l'ai découverte, hein, franchement, à travers ton roman, enfin le roman que tu as donc coécrit, Benoît Sévrac, avec Hervé Jubert, Voisazé, et donc aux éditions Le Passage. C'est la première fois que tu publies chez eux, non ?
C'est la première fois que je travaille avec eux, parce que comme ce n'est pas un roman noir, mon éditeur traditionnel, enfin habituel en littérature adulte, qui est la Manufacture de Livres à Paris, ça ne correspondait pas à leur ligne éditoriale. Je le savais, je leur ai présenté juste par courtoisie, mais tout en leur disant que ce n'était pas vraiment pour eux. Et Le Passage, qui va plus sur la veine polar, pour le coup, a été intéressé. Et c'est une maison aussi à Paris, une maison indépendante, et très très belle maison d'édition.
Et c'est important de défendre les éditeurs indépendants, tout comme les libraires indépendants.
On est bien d'accord. Ouais.
Qui sont essentiels pour la vie, pour la littérature, chez nous en tous les cas.
Mais pour la biodiversité des auteurs. Quoi. C'est-à-dire que ce sont les maisons indépendantes sont quasiment les seules à prendre des risques sur des bouquins un peu atypiques, des auteurs méconnus ou pas connus du tout. Et je suis bien placé pour le savoir, j'ai commencé comme ça. Ce sont les indépendants qui prennent ces risques-là.
Et donc nous les saluons ici dans l'émission. Et donc, que tu as rencontré, du coup, je suppose, ceux qui ont créé l'association et qui sont remerciés, notamment Jean-Claude et Monique Drouillet.
Oui, alors, ils sont cofondateurs de l'association Oklahoma Occitanio, ou Occitania. Ce qui a été formidable, c'est que ce sont des gens qui nous ont accueillis à bras ouverts. On avait écrit ce roman, alors on est bien d'accord, hein, notre roman n'est pas du tout historique malgré tout ce que j'ai raconté, c'est un roman contemporain qui se passe aujourd'hui du côté de Montauban. On a délocalisé certaines choses, etc., pour éviter des ennuis, mais on a vraiment inventé tout de A à Z. Seul le point de départ, à savoir le voyage, est en fond en fond de toile, mais donc on a écrit quelque chose de complètement... pas anachronique non plus, mais on a pris des libertés avec la vérité. Et les gens de l'association ont eu cette intelligence de voir que c'était une œuvre de fiction, nous ont accueillis à bras ouverts. Et nous, quand on a dit qu'on avait comme projet d'écrire, non pas une suite, mais un deuxième volume, une aventure qui reprendrait les mêmes personnages, et qu'on voulait le situer en Oklahoma, ils nous ont dit, oui, mais là, par contre, vous ne pouvez pas, ouais, évidemment, vous ne pouvez pas écrire sur les Indiens Osage aujourd'hui en Oklahoma sans y aller. Quoi. Et on est devenu membre de l'association, on a présenté notre projet, le conseil d'administration nous a soutenus tout de suite et nous a présenté, en fait, nous a mandaté pour partir cet été pendant 3 semaines. On est en délégation officielle, envoyé là-bas par l'association et reçu là-bas par les gens de la même association, mais le versant Osage. Et on va être reçu donc par les osages chez eux, dans le ranch de l'un d'eux, reçu par le chef, reçu par les membres du conseil tribal, les membres du conseil minier, les gens de la culture, tous les acteurs culturels, économiques et politiques, et même les flics, évidemment. On est écrivain de polar, donc on a... Et tous les chefs spirituels un petit peu nous attendent. Il y a une vingtaine ou trentaine de personnes qui sont spontanément dit prêts à nous accueillir et à parler avec nous pour nous donner du matériau. Donc on part, Hervé et moi, cet été, pendant 3 semaines, reçus là-bas. Et un point d'ailleurs à donner ici, on part aussi parce qu'on a réussi à avoir un mécénat, une entreprise de Muret qui s'appelle Ella Conseil, qui fait du conseil en entreprise, de la formation en entreprise. En la personne de Nathalie Bardouille, enfin, la directrice ou présidente, je ne sais pas comment on dit exactement, la patronne, quoi, a décidé de se lancer récemment dans du mécénat d'artistes et nous a été intéressée par notre projet, était convaincue par notre projet. J'avais fait sa rencontre par l'intermédiaire des textographies que j'écris avec mon fils qui est photographe et qui donne lieu à certaines expositions. Je lui ai exposé notre projet et elle a décidé de l'aider et elle nous paye donc l'aller-retour pour partir là-bas. Et je tiens à le souligner parce que voilà, il y a des fois des mécénats qui ne demandent, c'est un mécénat, ils ne demandent rien en retour. Il y a aucun, voilà, c'est pas un sponsor, ouais. C'est un vrai mécénat parce qu'ils croient en ce projet, ils croient aux artistes locaux et ils ont envie de nous aider. Formidable.
Donc c'est une belle aventure.
Superbe aventure. C'est ça qui est génial dans ce métier, c'est que ça permet de... Enfin, je sais pas, voilà, j'ai bientôt 52 ans, je pars chez les Indiens pendant 3 semaines et grâce à une entrepreneuse de Muret, quoi. Enfin, bon, voilà, qui m'aurait dit ça quand j'avais 20 ans? J'aurais pas cru, quoi. Voilà, et ce métier permet de faire de tisser des liens avec des fils peut-être improbables au départ.
Donc il y a des liens qui se créent, des passerelles qui sont jetées par-dessus les océans. Pour une aventure avec une gendarme en chef qui finalement, sans le savoir, aura peut-être des acquaintances avec le chef Marmon dans ton histoire.
On ne va pas trop en dire, mais non. Oui, elle est lieutenant de gendarmerie et effectivement, il va y avoir un lien qui va se créer entre eux deux. Et le chef Marmon, qui est venu recevoir un lopin de terre au nom de l'amitié Oklahoma Occitanie, est venu voilà, en délégation officielle, lui, mandaté par sa tribu. Et il attend un signe. Il a dit qu'il peut pas, voilà, il sent pas la terre. Il faut qu'il y ait un signe qui lui fasse accepter cette terre. Donc le signe ne va pas forcément être celui auquel on s'attendait et pas forcément positif. Et malgré lui, parce que c'est un gars charismatique, hein, un grand costaud, et qui, chez lui, là-bas, fait partie du conseil tribal, donc c'est quand même une figure dans son peuple. Et malgré lui, il va être embarqué dans l'enquête de gendarmerie, il va devoir y contribuer, et il va aider, quoi, voilà. Ouais, oui. J'en dis pas plus.
Et forcément, dans ce village qui s'appelle La Prade.
La Prade, oui.
La Prade, donc, je sais pas, c'est un nom inventé pour... Oui. Pour pas qu'il y ait de soucis et de problèmes avec les habitants. Il y a bien sûr des réfractaires qui n'admettent pas du tout que le maire fasse don donc dans l'open de terre.
Oui, alors on est allé sur des clichés un petit peu, on va dire sur la caricature des
pêche, chasse et tradition.
Un petit peu, il y a un petit peu, je ne voudrais pas balancer, mais il y en a certains qui pourraient se reconnaître dans le portrait que l'on a fait, un peu caricatural des locaux.
Un peu réac,
ouais, où on n'est pas très très loin de certaines valeurs défendues par certains partis un peu xénophobes qui consistent à dire la France aux Français ou la Prade ou la Pradée, quoi, qui s'oppose à un groupe de qu'on n'a pas loupé non plus, hein, parce qu'on n'est pas tendre non plus avec les occitanistes en face qui sont dans le partage un peu naïf peuples du monde opprimés ou peuples opprimés du monde, unissez-vous, et donc ils sont dans le partage de la terre, mais ils sont aussi dans l'accueil, etc. Et c'est un peu des néo-hippies, on va dire. Et bon, évidemment, on a plus de sympathie pour eux que pour les réacs, mais malgré tout, on les a pas loupés non plus. Mais les deux clans devaient s'affronter, et moi qui ai quand même vécu longtemps qui ait grandi à la campagne et vécu longtemps dans des petits villages, je reconnais certaines situations quand même de les néo-ruraux qu'on critique souvent, qu'on traite de bobos, etc., mais qui sont finalement les gens qui amènent de l'impulsion dans un village, sont ceux qui s'investissent le plus dans les associations, même dans les conseils municipaux, alors que les locaux qui défendent leur identité ne font rien pour la défendre et surtout ne veulent pas que ça bouge. Ils veulent que la porte soit refermée derrière eux. Donc je parle en connaissance de cause. Quoi, ouais.
Et même dans ce cadre-là, tu as effectivement des jeunes qui n'étaient pas du tout dans le milieu agricole et qui se lancent dans une autre forme d'agriculture d'ailleurs et qui sont donc regardés un petit peu avec des lorgnettes qui pourraient jeter des flèches.
Oui, alors je connais bien ce milieu-là aussi parce que je connais, enfin voilà, dans ma famille ou dans mes amis, il y a pas mal de gens qui se sont lancés dans l'agriculture alternative et même ça remonte au Larzac. Enfin, j'ai dans la famille un cousin notamment qui était un des 103 sur le Larzac et tout. Donc la lutte paysanne, petite paysannerie, je la connais bien et je pense que oui, c'est pas parce qu'on est néo-rural qu'on a moins voix au chapitre ou qu'on n'a pas le droit de s'installer, d'avoir des bonnes idées sur le devenir de l'agriculture. Voilà. Peut-être que quand on a le nez dans le guidon depuis trop longtemps, on n'est peut-être pas forcément le mieux placé pour faire bouger les lignes.
On a perdu le bon sens.
Ouais, le bon sens paysan, ouais, voilà, ouais, je sais pas.
Mais en tout cas. Et donc, il y a quelques enlèvements, personnes qui sont même trucidées. Comment est venu le début de l'histoire? Parce qu'il fallait un déclic, il fallait des rencontres. Et comment s'est faite d'ailleurs la rencontre avec ton confrère Jubert?
Alors Hervé Jubert et moi, nous connaissons depuis un bon moment maintenant. On s'est rencontrés sur une édition dans les années 2007 ou 2008 du Salon du Livre à Gaillac. Et on a sympathisé tout de suite. Et aujourd'hui, Hervé et moi, Hervé, c'est mon meilleur ami, quoi, on va dire. C'est assez vrai de le dire comme ça. Et je pense pouvoir dire que je suis son meilleur pote. On est un peu comme deux frangins qui se sont choisis. Et donc ça a été nécessaire pour écrire à quatre mains. Parce que quand on est en confiance comme ça, on sait qu'on peut dire à l'autre ce qu'on en pense vraiment, en sachant qu'il ne va pas du tout y voir autre chose que d'une critique. Voilà, ce sera rien d'autre que de la bienveillance. Et en retour, moi, je peux entendre à peu près n'importe quoi d'Hervé. Je sais que ce sera dit avec bienveillance et que ce sera pour le bien du texte, quoi. Donc, il n'y a pas d'ego là-dedans. Même s'il y en a toujours évidemment un peu, quoi. Donc, mais c'est que de l'ego positif, c'est-à-dire que à la rigueur, quand il m'envoie un chapitre qui est très très bien écrit et très vite écrit, ça peut me pousser à, parce qu'on est toujours un peu dans la compète, quoi, hein, donc ça peut me pousser à vouloir écrire un chapitre encore mieux, encore plus vite. Mais ça, c'est bon, c'est de l'émulation positive. Mais par contre, voilà, à aucun moment je me sens regardé ou pris en défaut, et donc ça nous a permis de travailler à quatre mains. J'avais jamais travaillé avec quelqu'un d'autre. Le métier d'écrivain est un métier solitaire, c'est ce qu'on aime, hein, et en général j'ai beaucoup de mal à ce qu'on regarde par-dessus mon épaule quand j'écris, quoi. Là ça a été une expérience unique qu'on a envie de renouveler, donc ça s'est plutôt bien passé. Et la rencontre avec cette histoire là ça a été des articles dans la Dépêche du Midi et un autre dans le Midi Libre. Voilà, une histoire comme quoi, hein, dans la presse quotidienne régionale, on peut trouver des sources d'inspiration. Au-delà du fait divers, il y a des tendances lourdes qui peuvent s'en dégager. Et ça, c'en était une. C'était l'histoire des Indiens Osages en 1827-1829, que je ne connaissais absolument pas. Alors que voilà, je me prétends un peu informé sur ce qui se passe dans ma région et sur l'histoire de ma région, mais là, pas du tout. Et un deuxième article qui parlait de toute autre chose, d'une gamine qui avait des visions, qui était montpelliéraine, qui avait des visions et qui voyait des Indiens sans plumes. Et c'était en lien avec les Indiens montagnés du Canada, qui n'ont pas de plumes, effectivement. Mais ça, c'était en rapport avec le village d'Alzin, en Ariège. Et c'est un autre jumelage qui existe en Ariège depuis 20 ans. avec un Toulousain qui est impliqué là-dedans, puisque je crois que Maître Lafont, qui est un avocat toulousain, est impliqué dans cette histoire d'amitié entre Alzins, du côté de la Bastille de Céroux, et les montagniers du Canada. Mais c'est une autre histoire qui n'avait rien à voir. Nous, on a mélangé un peu tout ça. Et puis après, tout est inventé, évidemment. Hein. Tu parlais de kidnapping, enfin d'enlèvement et d'assassinat. Oui, on est des polars d'eux, on écrit des histoires de... mais qui n'ont pas existé, là, pour le coup. Hein.
Et qui c'est qui est au départ, a trouvé le personnage de le lieutenant en chef, Claire Tourment?
Alors, Claire, je ne sais plus qui est parti. Franchement, ça a été tellement une symbiose que je ne sais plus du tout qui a... Je sais que c'est moi qui ai lu les articles au départ et qui ai amené ça à Hervé en lui disant « Tiens, c'est pour toi, parce qu'il y a du fantastique. Ça remonte au 19e, donc c'est pour toi. » Parce que lui, il écrit beaucoup là-dedans. Et lui m'a dit « Non, mais non, écrivons-le à deux. » Alors, le personnage de Claire Tourment, je ne sais pas. Je ne sais plus du tout. Et ça va. C'est à tel point que quand même certains passages, quand on travaillait la correction avec l'éditeur, qui lui-même ne voit pas les points de rupture, ne voit pas les moments où l'un a écrit, l'autre a écrit. Le fait est que nous-mêmes, on avait du mal à savoir qui avait écrit tel ou tel passage quand il fallait corriger. Donc c'est vraiment, on est allé vers une troisième voie, c'est ni du Joubert, ni du Sévrac. On est sur la voie du livre, voie VOX quoi, du livre. On est vraiment sur une troisième voie qui est celle du livre. Et c'est ce qu'il fallait faire en fait. Bon après, ça peut être intéressant de travailler différemment, de travailler sur justement... la différence de style et de donner une narration à l'un, une narration à l'autre. Mais nous, on n'est pas du tout parti là-dessus. Hein.
Et c'est vrai que c'est différent des autres ouvrages que tu as écrits, mais c'est très bien. Mais ça tient aussi en haleine la lectrice ou le lecteur.
J'espère, oui. Les retours sont bons par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est très différent de ce que j'écris d'habitude. Ouais.
Et pour rappel, avec Rendez-vous au 10 avril, tu as obtenu en 2009 le prix Mémoire d'Oc.
Oui, 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 ça remonte un peu maintenant, mais le grand plaisir, c'est que Rendez-vous 10 avril vit toujours, il vient de sortir en poche ouais, chez Pocket, et c'est une belle reconnaissance de ce manuscrit, c'est une belle deuxième vie qui l'attend, il est sélectionné dans les nouvelles voies du polar de Pocket, donc bon voilà, il continue à vivre et à toucher les gens, et c'est formidable pour un auteur ça, ouais.
Et là, par contre, l'histoire se passe à l'ancienne école vétérinaire, sauf erreur de ma part, si mes souvenirs sont bons.
C'est ça, ouais.
Parce que je l'ai lu au moment où il est sorti. Et même, je faisais partie d'un jury à l'époque. Et donc, c'est puisque tu es aussi professeur, justement, à l'école vétérinaire. Enfin, je ne sais pas si tu as pu abandonner ce métier-là grâce à l'écriture.
Non, non, je suis toujours enseignant à l'école vétérinaire de Toulouse. Et c'est avec bonheur, hein, c'est un métier que j'aime. L'écriture me nourrit et me permet de gagner ma vie, mais pas assez pour basculer et arrêter mon travail. Et quand bien même, je ne sais pas si je le souhaiterais vraiment, parce que c'est un bel équilibre que d'avoir ces deux métiers-là. Oui, Rendez-vous 10 avril, alors là aussi, pure fiction, mais il est né de...
Mais
avec
une base historique quand même.
Oui, voilà, on est sur Toulouse en 1921, donc tout est très documenté. J'ai eu accès à des sources primaires de documentation et des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé, comme le professeur Baudin à l'époque ou le professeur Daré, qui m'ont raconté l'école vétérinaire que eux connaissaient ou avaient connue à l'époque où elle était à la place de Cabanis, quoi. Elle était à Marengo, derrière la gare. C'était un bobo, enfin pas un bobo, faut pas dire, c'est pas tout à fait pareil. C'était un très beau bâtiment urbain vitré. Aujourd'hui, je pense qu'on le conserverait, mais bon, il a été rasé dans les années 60. Et donc, oui, tout est documenté. Bon, après, l'histoire est une pure invention qui est sur le propos des poilus. Les poilus qui sont revenus indemnes physiquement de la guerre de 14-18, mais complètement détruits psychologiquement et qui n'ont plus rien à perdre. Et lui, mon inspecteur, en est un, quoi. Voilà.
Et puis il y a eu plusieurs romans, dont celui qui se passe aussi aux Isards, qui est paru chez la Manufacture.
Oui, alors tu fais allusion au Chien arabe qui est paru, qui a changé de titre parce que le titre a choqué certaines personnes, bon, ce que je peux comprendre. Voilà, il a, certaines personnes se sont senties offensées alors que l'intention n'était pas du tout celle-là. Mais il a paru sous le titre de Trafic aux éditions chez Pocket aussi, donc en poche. D'accord. Il y a eu ça, il y a eu 115 derrière qui est pas une suite, mais qui reprend les mêmes personnages de Nathalie Decrest et Sergi Nolard, qui est la vétérinaire que l'on voit dans Trafic, que l'on découvre dans Trafic, qui se prend d'amitié pour une jeune maghrébine et qui va tout faire pour la sortir d'une mauvaise passe malgré le quartier, malgré la famille, etc. Et qui, en faisant ça, met les pieds dans le plat de deux enquêtes policières qui tournent sur le quartier. Dans 115, on retrouve les mêmes personnages et on est sur le thème évidemment 115, c'est le numéro de téléphone du SAMU social. On est sur la thématique d'une part des SDF et de la façon dont on les traite un petit peu en France aujourd'hui, et d'autre part avec une enquête policière de Nathalie Decrest sur la thématique de la prostitution albanaise et tout le réseau mafieux qu'il y a autour de ça, quoi, et qui ne touche pas que la prostitution ou le trafic humain, mais également le trafic d'armes, le trafic de drogue, etc. La mafia, par définition, touche à tout ce qui rapporte du pognon, quoi. Et donc, j'ai croisé ces deux univers-là, avec ces deux femmes-là, une belle histoire de femmes, une belle histoire d'amitié et en même temps de découverte de l'une de l'autre, et un roman noir social, pour le coup, assez marqué par notre temps, ouais.
Donc, ce qui t'a amené aussi à justement à mener des enquêtes et à approfondir un petit peu et à mieux connaître l'histoire et tout ce qui s'est passé là, avec peut-être en se plongeant carrément, en allant sur les lieux, observer, voir.
Toujours, il y a toujours chez moi, je ne l'érige pas en principe, parce que chacun, on écrit tous de façon très différente, mais moi j'ai vraiment besoin de m'immerger dans l'humain et dans le vécu et mettre les mains dans le cambouis, même si j'en fais rien finalement de façon directe, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser le matériau des gens que j'ai croisés ou des histoires que j'ai entendues directement, mais j'ai besoin de rencontrer, de sentir l'odeur, voir, entendre les bruits de la rue. Et donc oui, j'ai passé 4 mois d'hiver 2015-2016 à raison de 2-3 fois par semaine, aller voir le 115, aller voir le Secours Populaire, aller voir le C10, aller voir le GPS, aller voir tous ces gens qui eux font pas semblant comme moi, ils ne font pas qu'observer, mais qui travaillent avec tous les sans-abri, qui ont un rôle. Différents selon qu'ils appartiennent à telle ou telle association, mais qui font tous un travail formidable que nous ne voulons pas faire, que nous ne voulons pas voir, ou que les institutions délèguent à ces associations-là de façon hypocrite, de façon très très officielle souvent, et de façon aussi hypocrite parfois, c'est-à-dire qu'ils leur délèguent des tâches qui sont interdites, par exemple les squads officiels, des choses comme ça, en fermant les yeux, tout en sachant qu'en fait les associations vont leur enlever une épine du pied, parce que si ils appliquaient la loi et qu'ils évacuaient les gens, ils seraient bien obligés de les mettre quelque part, donc autant laisser les associations gérer ça. Là, il y a un travail formidable qui est mené par ces associations sur le terrain, et surtout il y a un désir de transparence et de s'ouvrir. Moi, j'étais accueilli par le 115 à bras ouverts, encore une fois, parce que tout ce qui peut faire parler de leur métier, tout ce qui peut alerter la population sur ce qui se passe dans les rues de Toulouse, c'est bénef pour eux. Et donc, j'ai eu vraiment une vraie transparence de leur part, un vrai désir d'expliquer leurs conditions de travail et surtout les mauvaises conditions de travail qui sont les leurs. Il y a énormément d'abandon de l'État sur les missions régaliennes. Et on abandonne ces fonctionnaires ou ces fonctionnaires territoriaux à une grande détresse, parce que ce sont des gens qui croient en leur mission et qui n'ont pas les moyens de la mener à bien.
Et oui, on préfère peut-être installer des caméras de surveillance, par exemple.
Par exemple.
Et puis faire plus de répression que de prévention. Et quand aussi des emplois aidés sont supprimés parce que soi-disant ça coûte trop cher, mais pas les cadeaux qui sont faits aux multimilliardaires, il y a des questions à se poser. Notamment, ça c'est le coup de gueule aussi de l'animateur.
Non, mais le coup de gueule de l'animateur rejoint les questions que l'on se pose quand on écrit un roman noir. Un roman noir n'apporte pas de réponse. Le roman noir, l'intérêt, c'est les questions qu'il pose. Et moi, je n'ai pas de prétention à changer le monde. Peut-être juste changer le regard que le lecteur peut porter sur les SDF dans Toulouse. Le temps d'un roman, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Après, mon engagement personnel évolue. Mais ça, c'est personnel. Je n'en parlerai pas ici. Voilà. Mais il évolue forcément avec mes écritures. C'est-à-dire que moi-même, je sors jamais indemne de l'écriture d'un roman noir. Et que ce soit les SDF, que ce soit les Syriens, j'ai écrit aussi pour les jeunes sur la question syrienne et l'accueil des Syriens à Toulouse, et j'en sors pas indemne, je change moi aussi, mon regard change.
D'accord, donc je rappelle aussi, mais nous allons y revenir tout à l'heure après la pause en chanson, donc Benoît Sévorac et Hervé Jubert, vous avez co-écrit Ouazaz aux éditions donc Le Passage, et nous allons y revenir. Mais en attendant, nous allons écouter le groupe qu'a cofondé Damien Moretto, qui est aussi l'auteur de l'indicatif de l'émission. Et ça, le groupe s'appelle Melting Blue et ça s'appelle Argente Naranja. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Et si demain sur Esprit Occitanie, en compagnie de Benoît Séverac, donc, qui a coécrit avec Hervé Joubert, Oazaz, donc aux éditions Le Passage. Et donc là, nous nous trouvons avec le chef marmot, un indien osage de l'Oklahoma, mais aussi dans un village pas loin de Montauban qui s'appelle La Prade, et avec une lieutenante qui est Claire Tourment, qui est tourmentée aussi dans ce... dans sa vie, quelque part, mais qui est un fin ligné pour l'enquête.
Oui, c'est un beau personnage auquel on s'est attaché.
Et le lecteur s'y attache aussi.
Ah, ouais, très bien. Bah, très bien alors. Ouais. Ouais, elle est un peu atypique, bah, comme toujours. Hein, les héros de Polar sont toujours des flics un peu atypiques. Bon, là, on n'a pas fait une alcoolo détruite, ça, mais elle a un passé quand même un peu lourd. Elle a un rapport compliqué avec son père. Et pour cause, mais on n'en dit pas plus non plus. Non. Et voilà, c'est un moyen aussi de montrer que bah, derrière les uniformes, il y a toujours des hommes. Il ne faut pas oublier ça non plus.
Ou des femmes. Pour
ouais.
le cas.
Ceci dit, nous avons
un côté masculin, un côté féminin.
Non, tout à fait.
Mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a des personnages aussi bien typés, avec un maire aussi du village de La Prade, donc, un maire du terroir, mais qui en même temps a quand même un esprit un peu plus ouvert justement que ceux qui veulent garder leur terre, ne pas du tout l'avoir franchir, par, même à la limite le village d'à côté.
Oui, non. Il faut toujours nuancer quand on parle des gens dans un roman. Moi, je trouve que c'est important de jamais être dans le blanc-noir. Il faut toujours nuancer ces personnages. Donc, les flics, il faut les nuancer. Il n'y a pas que des flics alcoolos qui frappent les jeunes manifestants. Il n'y a pas que des gentils chez les occitanistes. Il n'y a pas que des gros bourrins chez les agriculteurs terroirs, etc. Donc, il faut toujours nuancer ça. On sait que c'est évident, mais l'écrire, c'est important aussi de montrer des personnages attachants partout, dans tous les camps. Après, il ne s'agit pas non plus d'être politiquement correct. Il faut aussi bousculer certaines idées reçues et ne pas hésiter à dénoncer certaines choses de façon un peu, voilà, en le disant clairement, de façon explicite. Mais il faut tout le temps nuancer. Et c'est ça, moi, j'attache beaucoup d'importance à ça quand j'écris. C'est ne jamais être dans la caricature et en même temps ne jamais être politiquement correct. C'est compliqué. C'est une histoire de dosage.
Oui, oui. C'est effectivement pas forcément évident, mais tous les deux, vous y arrivez bien. Et dans tes précédents romans, tu y arrives tout à fait. Et avec une belle écriture à chaque fois. Et puis, dans cette histoire aussi, mais sans tout dévoiler, mais il y a quand même aussi une gamine qui est en connexion avec le chef indien.
Oui, alors c'est la gamine inspirée de cette jeune Montpelliéraine qui a des visions. Et alors elle est en connexion, comme on peut l'être. C'est la seule part de naturel, de surnaturel un petit peu dans ce roman. Mais il faut l'accepter comme, en fait, il faut faire un peu ce qu'on fait quand on rentre dans un roman, c'est-à-dire on suspend un peu son incrédulité et on accepte un contrat de lecture qui est celui que, bon, ben voilà, du surnaturel. On est avec des Indiens. Et donc, il faut accepter cette part de relations possibles entre le cosmos, le tellurique, etc., et entre les êtres. Et oui, cette gamine entre en relation avec un Indien par le biais de visions. C'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. On n'est pas du tout dans un roman fantastique, ni dans un truc où il y a de la magie, etc. Non, on est dans quelque chose auquel les Indiens croient aujourd'hui, les cérémonies des osages sont vraiment ancrées dans une spiritualité et une cosmologie prégnante, présente là. C'est, pour eux, c'est évident. Nous, ça nous paraît un peu farfelu, mais en fait, on l'accepte assez facilement quand c'est de la part d'Indiens. C'est bizarre, on ne l'accepte pas du tout chez nous, mais chez eux, on trouve ça naturel. Donc, il faut rentrer dans ce roman en se disant que voilà, c'est normal parce qu'il y a des Indiens, donc il y a des histoires un peu spirituelles. Ouais.
Et donc, dans le voyage que tu vas faire avec Hervé, là, finalement, entrer vraiment dans le monde des osages, Pendant 3 semaines, là, vous allez encore découvrir forcément plein de choses avec une atmosphère peut-être plus particulière, justement, et vous imprégner de cette autre culture aussi.
Alors bien sûr, on y va avec tous nos chakras ouverts, quoi. C'est-à-dire qu'on y va avec des antennes paraboliques qui vont tourner en permanence. L'idée, c'est de capter les décors, ne serait-ce que ça déjà. L'Oklahoma, c'est l'Oklahoma. Donc je ne connais pas l'Oklahoma. Je ne pense pas que ce soit l'état le plus attrayant au niveau visuel des États-Unis. Mais justement, ça, faudra le retranscrire. Il y a quelque chose en Oklahoma. Il y a des odeurs, il y a forcément des ciels, il y a des lumières particulières. Il y a des rues et on aura besoin de pouvoir nous repérer de façon spatiale dans l'écriture du roman qui devra se passer là-bas ou dont on a envie qu'il se passe là-bas. Mais évidemment, on va rencontrer des gens. Donc leur histoire, il y a une histoire très très riche et c'est très compliqué l'histoire des Indiens aux États-Unis. Donc il y a un vécu que eux trimballent encore aujourd'hui. Il va y avoir aussi ce que c'est que d'être indien aujourd'hui aux États-Unis, leur indianité, qu'est-ce que c'est
Surtout avec M. Trump, ça ne devrait pas s'arranger.
Non, ça ne peut pas s'arranger, mais de toute façon, il n'y a pas eu besoin de Trump avant pour que ce soit déjà compliqué. Donc il y a pas mal de choses intéressantes à creuser là, que moi je pense... savoir, mais en fait certainement que j'ignore complètement et de toute façon j'y vais en essayant d'oublier un petit peu mes a priori de français moyen qui a lu des bouquins sur les Indiens, mais ça suffit pas. Je pense que justement rencontrer les gens, ça va nous permettre de rentrer un petit peu dans cet état d'esprit de l'Indien aujourd'hui. Et il y a toute une culture aussi qui est très spirituelle, ils y sont très attachés, très en relation avec la terre, très en relation avec les éléments, le cosmos, etc. Et j'ai envie de sans juger, sans y adhérer forcément, mais je suis prêt à pas me mettre en danger, parce qu'il n'est pas question de ça, mais à laisser tomber un petit peu mes a priori et à m'ouvrir à ce que j'ignore. C'est le principe de l'écriture. Il faut d'abord aller vers l'autre sans jugement et sans a priori. C'est une très bonne leçon dans la vie, mais pour l'écriture, c'est très très nécessaire. Quoi. Donc, il me tarde. Ouais.
Alors, tu parlais du lien de ce rapport avec la Terre. Justement, je le dis quelquefois dans les émissions, c'est ce que certains ont oublié, notamment ceux qui sont sur des engins énormes qui n'ont plus, qui ont peur peut-être des néo-ruraux qui viennent s'installer en permaculture, et alors qu'ils sont sur des tracteurs dont les roues dépassent presque le plafond du studio, et pourtant il est haut, et donc il n'y a plus de connexion. Et c'est ça aussi, c'est peut-être là aussi, comme je l'avais mis en titre, et si demain la sagesse l'emportait sur le diktat de la finance, c'est aussi ça, à un moment donné, quand les Américains ont débarqué là et qu'ils pensaient qu'ils étaient en Inde, d'ailleurs, qu'ils ont baptisé ça les Indiens, ils sont venus en territoire conquérir un lieu et en oubliant totalement peut-être le lien qu'avaient les autochtones et en essayant de les balayer et aujourd'hui ne plus totalement les reconnaître ou ne pas les reconnaître du tout, alors que à la limite ça ferait partie de leur histoire.
Oui, alors je ne sais pas quoi dire de plus à ça. On était déjà dans le principe du capitalisme, quoi, en fait, ou de la mondialisation. Hein. C'était déjà de la mondialisation. Les conquistadors, ils sont arrivés avec un seul objectif, c'était celui de s'enrichir et d'enrichir la couronne. Donc aucun autre critère ou paramètre n'entrait en ligne de compte et tout était bon pour piller. Donc non, oui, effectivement, la spiritualité... Alors attention, après, il ne faut pas être naïf non plus. Hein. Les Indiens, entre eux, s'exterminaient allègrement. Oui. Ils étaient capables d'être... Ils étaient très belliqueux les uns envers les autres. Il y avait des tribus plus ou moins guerrières, mais n'empêche que c'était pas non plus un long fleuve tranquille. Hein, non. Mais il y avait une recherche d'équilibre entre soi et le vivant autour de soi. Qu'on a perdu, mais alors rien n'est désespéré. Moi, je pense que même un, un exploitant agricole qui est en haut de son tracteur, au bout d'un moment, peut se poser des questions et peut voir aussi les bénéfices à revenir à un respect de simplement de l'outil qui est le sien, qui est la terre. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais bon, en gros, rien n'est désespéré, mais rien n'est non plus très, très clair chez les Indiens. Les Indiens, aujourd'hui, c'est des Américains. Et ils vivent comme des Américains. C'est-à-dire qu'ils vivent dans de la clim à outrance, ils vivent dans des bagnoles, ils polluent vachement, ils sont obèses comme les Américains, ils sont bourrés de cholestérol et de diabète. Hein. Oui, et donc le rapport à la terre...
Ils l'ont perdu.
Ben, je ne sais pas s'ils l'ont perdu. Ils l'entretiennent. Hein. Je verrai ça. Je ne veux pas parler... Je pense qu'en tout cas, il y a des gens, je le sais, ça, qui entretiennent ce lien, qui éduquent leurs gamins, notamment chez les Osages. Il y a un gros, gros travail d'éducation qui est fourni. Ils ont des gros dividendes qui tombent de l'exploitation du pétrole et qui réinvestissent dans l'éducation, la santé et la culture. Donc il y a un vrai... Ils ont sauvé leur langue, ils ont sauvé des tas de traditions, mais il ne faut pas oublier que d'abord, eux-mêmes sont issus d'un métissage de leur tradition. Ils ont adopté la religion catholique, en grande partie, à un moment donné. Ils ont adopté d'autres religions, comme le peyote, des choses comme ça, qui n'étaient pas les leurs au départ. Donc, et c'est normal, ils évoluent, eux aussi, avec les apports extérieurs. Donc le mythe de l'Indien qui est toujours en rapport avec la terre, il faut faire attention, parce que c'est certainement peut-être aussi un mythe. Quoi. Et il ne faut pas oublier que l'argent qui réinvestissent dans la culture, l'éducation et la santé, il vient quand même de l'exploitation du pétrole. Et quelque part, alors on ne peut pas leur reprocher. C'est une des rares ressources qu'on leur a laissées. Mais est-ce que quelque part c'est très très environnement, la terre, etc. Enfin, ça reste quand même de l'industrie du pétrole. Quoi.
Avec des interrogations, comme tu disais, s'ils sont devenus effectivement aussi obèses, tout comme c'est le cas aux États-Unis, donc que les McDo et compagnie ont fleuri et ont proposé de la malbouffe, ouais, c'est pas forcément.
Et en France, pays de, pays de la gastronomie, mais n'empêche que pays où on ouvre le plus de McDo par tête d'habitant.
Ouais.
Donc la défense des valeurs, il faudrait peut-être commencer par ça, quoi, au lieu de voter pour l'exclusion de l'autre. Quoi. Ouais. Il faudrait commencer par défendre ces valeurs. Si nos valeurs, c'est la gastronomie, le savoir-vivre, etc., arrêtons d'aller bouffer dans les fast-food. Quoi.
Nous sommes d'accord dans cette émission. Allez, j'ai marqué une autre pause en chanson parce que c'est quelqu'un d'adorable et que je salue au passage, qui est venu deux fois dans l'émission Et si demain et dans l'émission Traversée du vendredi matin. C'est Lise Martin qui va nous chanter demain. Salut Lise et bonjour à ta petite Nola aussi et à Simon. À tout de suite.
Ce soir, je n'ai pas envie de rire ni de parler. Ce soir, je n'ai pas envie de boire ni de fumer. Je ne veux pas m'enivrer pour rien, pour oublier. Je ne veux pas de mémoire, ni d'alcool à pleurer. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera. Le soleil veille tard et le sommeil ne vient pas. La douceur se fait rare sous le bruit de nos pas. Ce n'est plus pour partir mais apprendre à rester. Je ne veux pas dormir, je ne veux pas rêver. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. Le vent la séchera, je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. La chaleur est troublante, mais je ne veux pas danser. La musique est vibrante, mais je ne veux pas chanter. Je ne veux pas me perdre, je ne veux pas crier. Je ne veux pas d'espoir, encore moins de regrets. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi si une larme coule. le vent la séchera. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. Si c'est encore possible, s'il n'est pas trop tard, j'achèterai un livre choisi là au hasard. J'en lirai quelques lignes, puis le refermerai. Je ne veux pas m'asseoir, je ne veux pas penser. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. Je veux juste marcher, ne pas penser à toi. Si une larme coule, le vent la séchera. Si les parcs ne sont pas déjà fermés, je choisirai un arbre sous lequel m'allonger. Et à travers les feuilles, le ciel viendra pleurer. Je ne veux pas vivre en deuil, ni mourir éveillé. Je veux juste trouver Paris beau en été. Je me suis endormie et je rêvais de toi. Si une larme a coulé, c'était la pluie, je crois. Je viens de m'éveiller et le soleil est là. Le vent sur mon visage me caresse tout bas. C'est l'été sur mon île. Je regarde ma ville, si belle ce matin-là.
Lise Martin dans le cadre de l'émission « Et si demain ?» avec Benoît Sévorac dans le studio et donc qui a coécrit avec Hervé Jubert Oisaz. C'est aux éditions Le Passage, donc très beau roman écrit à 80. Alors, il ne faut pas que j'oublie l'information quand même, Benoît. Puisque Benoît Sévorac, tu es donc invité à Sarlat dans le cadre du festival Origine le 30 juin et le 1er juillet.
Oui, c'est ça, ce sera mon dernier salon de l'année, enfin de l'année universitaire, on va dire. Et je finis en beauté à Sarlat. Il y a pire comme lieu de salon. C'est un festival dédié à la préhistoire. Et comme j'ai écrit il y a quelques années un roman qui s'appelle L'homme qui dessine, c'était en 2015, aux éditions Syros, qui est un polar préhistorique. Ça les a intrigués parce que il y a beaucoup de livres documentaires, beaucoup de choses comme ça. Là, c'est de la fiction, en plus c'est du polar, donc ça les a intrigués, ils m'ont invité. Voilà, donc je suis ravi d'y participer. Ça n'a pas été possible l'an dernier, donc ça fait un moment qu'ils veulent me faire venir. Donc je suis très content de pouvoir y aller cette année. Ouais.
Sarlat, je suppose que tu connais déjà la ville.
Oui, oui. Ouais, ça fait partie des lieux à visiter quand on est
pas loin,
occitan, on va dire, maintenant. Voilà.
Oui, donc toujours, est-ce que tu te prêtes, a priori, avec plaisir, justement, à la rencontre avec les lectrices et les lecteurs dans différents salons. Plusieurs fois, tu fais partie d'ailleurs de l'équipe de Polar du Sud.
Ah non, plus maintenant. Plus maintenant. Oh là là, depuis longtemps, ouais.
D'accord.
Mais j'ai fait partie au départ de l'équipe de Toulouse Polar du Sud. Les auteurs, on est pas mal pris, donc c'était compliqué pour moi de rester investi dans... Mais oui, je me déplace beaucoup, je fais beaucoup de rencontres scolaires aussi autour de mes romans ados. Je fais pas mal de salons. J'aime ça, ouais. En fait, je fais aussi ce métier pour la rencontre. C'est-à-dire que je comprends que certains de mes collègues n'aient pas la même approche. Je sais que certains préfèrent l'intimité de leur bureau. D'autres, comme moi, aiment la rencontre. Pour moi, c'est un moteur, c'est du fuel, quoi. C'est vraiment un carburant incroyable que de rencontrer des humains et de passer ma vie à faire de belles rencontres autour des bouquins, mais évidemment pas seulement. C'est rapidement, les gens me parlent d'eux, me parlent de leur métier. Et quand on dit qu'on est écrivain, les gens vous ouvrent leurs portes. J'ai remarqué ça, c'est assez rapide, assez spontané. Alors que si on est, je ne sais pas moi, journaliste par exemple, c'est plus compliqué. Écrivain, les gens vous ouvrent leurs portes. Ils ont vraiment, je pense, le besoin de témoigner de ce que leur vie a été ou leur métier est. Et ils ont le sentiment qu'un écrivain peut en parler sans qu'ils se reconnaissent dedans, sans violer leur intimité, parce qu'il y a toujours la distance de la fiction. Donc je pense qu'on est un bon médium pour parler des gens. Et puis bon, je pense qu'on est des gens aussi qui savent écouter. Et moi, j'aime ça. J'aime écouter les gens, donc je pense que j'écoute bien. Et que c'est peut-être la seule qualité que j'ai, c'est d'arriver à écouter les gens. Et j'aime ça. Donc à partir du moment où on aime, les voyages, les déplacements sont des bons moments d'enrichissement personnel. Ouais.
Et au départ, quel a été le déclic, justement, la première fois que tu t'es lancé vraiment dans l'écriture et que tu t'es dit, tiens, je pourrais écrire un roman.
C'est impossible de répondre à cette question parce que j'avais 10 ans, j'écrivais déjà. Quoi, et il était absolument hors de question pour moi d'être écrivain. Je ne savais même pas ce que c'était, un écrivain. C'était mort, barbu, ça s'appelait Zola. Enfin voilà, c'était ça, un écrivain. Donc mais par contre, j'écrivais déjà et je lisais évidemment énormément et j'aimais qu'on me raconte des histoires et j'aimais raconter des histoires. Et un truc dont je me suis rendu compte a posteriori, parce qu'on se pose toujours ce genre de questions a posteriori, c'est quand on vous les pose en fait, les questions, c'est que j'ai toujours aimé, et même encore maintenant, être au centre de la discussion. Non pas pour... C'est pas de l'ego, quoi, pour qu'on parle de moi. C'est pas ça. C'est être celui qui raconte des histoires aux autres. Et je crois que ça, c'est un truc qui m'a toujours animé. Et quitte à mentir, quitte à inventer des histoires qui me sont pas arrivées, mais encore une fois, c'est pas mentir pour me mettre en avant ou pour me faire valoir. C'est parce que je sais qu'en racontant telle histoire qui a été inventée, ça va faire plaisir aux gens. Donc c'est vraiment que pour séduire les gens et plaire aux gens et leur faire du bien le temps de raconter une histoire. Un roman, c'est rien de plus que ça, quoi. C'est rien de plus que ça. Un gros mensonge, mais bien fichu, qui va faire plaisir et qui va faire du bien aux gens. Donc je crois que c'était là depuis toujours. Le moment où on se le dit, bon, c'est des déclics. Mais les déclics, ils sont pas uniques, ils arrivent par vagues. Et surtout, je pense que souvent, c'est le regard extérieur en fait, qui fait progresser. C'est quand on vous dit « Ah ben ça, c'est bien ». Donc ça peut être le regard d'un prof à un moment donné, d'une instite à un moment donné. Ça peut être le regard de votre épouse qui vous dit « Tu devrais, peut-être que tu devrais écrire un roman ». Enfin, des choses comme ça, quoi, des petits trucs qui, au bout d'un moment, vous font prendre conscience que ben, en fait, c'est là depuis toujours et que votre place, elle est là, quoi.
Et donc, est-ce que, parce qu'il y a un certain nombre de romans que tu as écrits qui pourraient être adaptés au cinéma, est-ce que tu as été déjà approché par des maisons de production, des réalisatrices, des réalisateurs ?
Oui, ça m'est arrivé d'être approché, mais c'est jamais allé plus loin que ça. Et effectivement, ça passe par les maisons de production en général et c'est quelque chose qui n'est pas du tout du ressort de l'écrivain. Il faut bien comprendre ça, c'est que quand on signe un contrat avec un éditeur, on cède ses droits commerciaux et c'est un deal qui va se passer entre le producteur, intéressé par un projet littéraire, une adaptation, et l'éditeur. Mais oui, on a été approché pour L'homme qui dessine notamment, pour Trafic et 115 aussi, on a été approché, mais ça reste toujours, comme souvent dans le cinéma ou la télévision, il y a beaucoup de projets qui naissent et énormément qui meurent, quoi. Donc pour l'instant, c'est à l'étape de c'est resté des projets sans suite, mais c'est vrai qu'on me dit souvent que mon écriture est très cinématographique ou visuelle en tout cas, et je pense que moi je sais que quand j'écris j'ai des images dans la tête, j'ai longtemps travaillé dans la photo, je pense que c'est des restes de ça, quoi, et je suis très attiré par la photographie et le cinéma, c'est vraiment, le cinéma est une source de, enfin c'est une nourriture pour moi, un passage obligé quasi quotidien, quoi, on va dire, et donc je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés à réunir mon monde avec le monde du cinéma ou de la télévision. Bon, maintenant si je lance un appel à un producteur potentiel qui pourrait nous écouter, évidemment je pense que ça pourrait le faire, ouais, assez facilement.
D'accord. Et puisque nous parlons de cinéma, j'ai vu en projection presse ce matin chez nos amis de l'American Cosmograph un documentaire qui va passer en avant-première, donc au 24 rue Montardi. C'est le mardi 26 juin à 20h30. C'est libre. Donc, c'est un documentaire qui est passé en sélection officielle hors compétition au Festival de Cannes. Documentaire de Michel Toesca, Et il y aura pour l'occasion Cédric Héroux, c'est le paysan qui a justement recueilli plein de réfugiés, d'immigrés du côté de Nice et qui a été pour cela ennuyé par la justice française. Donc c'est un très beau documentaire à voir en avant-première. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places chez nos amis de l'American Cosmographe pour le mardi 26 juin. Merci Benoît Sévorac d'être venu jusqu'à nous.
Alors, merci à vous tous.
Et donc, tu as coécrit avec Hervé Joubert Oisaz, donc aux éditions Le Passage, un ouvrage, un roman, un polar que je vous recommande. Merci. Hop là, je vais tout démolir. Merci Alan Delahaye et Valentin Marguerie pour la réalisation technique aujourd'hui. L'indicatif est signé par Damien Moreto et je vous donne rendez-vous vendredi matin dans l'émission Traversée en direct. Entre 10h et midi, nous parlerons aussi de romans, d'écriture, et là c'est avec Plume de Carotte, mais aussi de permaculture et du nouveau numéro d'Alter Echo. À vendredi, bye bye, merci.